France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la présidentielle 88 ou la réélection de François Mitterrand dans un fauteuil. 54% des voix au second tour contre Jacques Chirac. 54% dans l'absolu, ce n'est pas un très gros écart. Mais au regard des scores de toutes les présidentielles depuis Giscard en 74 et avant l'irruption du Front et du Rassemblement National dans la compétition, le score de François Mitterrand tient du triomphe. D'ailleurs, la presse ne s'y trompe pas. Le lundi 8 mai 1988, au lendemain du scrutin, le journal Libération titre « Chapeau l'artiste ». Tel est le résultat d'une stratégie particulièrement habile, en effet. En cohabitation depuis 2 ans, François Mitterrand observe, tire les ficelles en coulisses, se met la jeunesse française dans la poche, en soutenant des mouvements comme SOS Racisme, et reçoit le soutien de bon nombre d'artistes branchés, Tonton laisse pas béton, Chantrenaud par exemple, alors que Jacques Chirac reçoit l'appui d'artistes passés de mode. Et puis, profitant d'un Chirac essoré par 2 années à Matignon, d'un Raymond Barre trop professoral dans sa campagne, d'un manque de concurrents à gauche, et d'un débat d'entre-deux-tours où il domine son concurrent de la tête et des épaules, François Mitterrand ramasse la mise, bien vu l'artiste, même ses adversaires le disent. Notre invité aujourd'hui, François-Olivier Gisbert, journaliste bien sûr, auteur notamment de la biographie François Mitterrand, une vie, et d'une histoire intime de la Ve République, en 3 tomes, où il réunit analyse politique et fragments de sa propre vie. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Marjolaine Koch, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Le fils du président de la République, M. Gilbert Mitterrand, victime d'un grave accident de voiture en Espagne, par miracle, et vous comprendrez en voyant les images qui vont suivre, il n'est que légèrement blessé. L'une de ses filles a, elle aussi, été légèrement atteinte, et la seconde a été plus sérieusement touchée. Le chef de l'État et Mme Mitterrand se sont immédiatement rendus à leur chevet en Espagne.
Il est des événements qui vous cueillent et manquent de peu de bouleverser le reste de votre vie. Cet accident, qui se produit au début de l'été 87, en fait partie. À l'annonce de la nouvelle, François Mitterrand imaginait perdre ses proches. 10 jours plus tard, sa femme, Danielle, est hospitalisée. Alors le président qu'il est se questionne. Faut-il vraiment y retourner? Bon, on le sait, l'intéressé le disait lui-même par l'une de ses formules dont il avait le secret. On ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Dont acte. Surtout lorsqu'il s'agit de faire planer le mystère de son engagement ou non pour un deuxième mandat à l'Élysée. Mais au fond, il a toujours cru que ce septennat serait le seul. Quand, quelques mois après son élection en 1981, dans cette salle de bain de l'Élysée, le professeur Stegg et le docteur Claude Gubler lui ont appris la nouvelle. Un cancer de la prostate aggravé. Pronostic de survie, 3 ans. Alors aujourd'hui, il ne devrait plus être là. Par quel miracle a-t-il survécu? Personne ne peut l'expliquer, surtout que la maladie a été tenue secrète. Quand il se plaint de douleur, on met cela sur le compte de l'âge. Après tout, François Mitterrand a 70 ans. Alors, rempilé pour 7 ans, une folie. Mais peut-être, se dit-il, une folie moins grande que de laisser gagner Jacques Chirac et sa bande, comme il dit. Ou bien sûr, il n'est pas le seul à gauche à pouvoir prétendre gagner. Il sait que d'autres ont même constitué déjà leurs équipes. Le jeune Fabius, que l'on présente comme son dauphin, Jean-Pierre Chevènement aussi. Mais le plus légitime, ce serait Michel Rocard. D'ailleurs, il se prépare, et même sur les propres conseils de François Mitterrand, qui lui dit « Si je n'y allais pas, vous seriez tout destiné. » Mais Rocard et lui, c'est toute une histoire et de lourds ressentiments. « Quelle incompétence, disait Rocard de Mitterrand sur le terrain économique, quelle inculture, répondit Mitterrand à propos de Rocard, qui amorce donc une pré-campagne au cas où le président ne remplirait pas. » Au cas où. Il s'était déjà infligé ça en 1981. « J'irai, sauf si François Mitterrand y va. » On connaît la suite. À force de louper les trains, Rocard finira sur le quai et ne sera jamais président. Mais en 1987, l'année précédant la présidentielle, il est plein d'espoir.
Le changement que les Français attendent, il ne porte pas sur l'élégance vestimentaire de leurs dirigeants, il ne se symbolise pas par un Walkman ou un jean. Il réside au contraire dans l'explication loyale et permanente des difficultés que nous connaissons et des efforts à consentir pour les surmonter. Mes amis, parier sur l'intelligence des Français, c'est le seul jeu que je connaisse où on soit à peu près sûr de gagner à tous les coups. Alors pourquoi s'en priver ? Notre pays est debout, il ne demande qu'à marcher vers plus de justice, plus de solidarité, plus de croissance aussi, et plus d'emploi. J'ai la conviction que seuls les socialistes sauront avancer dans cette voie résolument, et c'est ce que l'un d'entre eux vous proposera l'année prochaine. Merci.
En cet automne 87, les socialistes marchent sur des œufs. Il faut amorcer la campagne, mais sans candidat. Jacques Séguéla propose alors une formule assez souple, il dira même réversible, avec le slogan « Génération Mitterrand ». Soit le président se lance et le slogan a tout son sens, soit c'est Rocard et il se positionne dans la continuité de Mitterrand. Bien joué. De son côté, Michel Rocard lance une campagne d'affichage sur un tout autre ton, un ton rocardien. Il fait placarder 600 affiches dans les grandes villes de France où il est simplement écrit « Il paraît que je suis trop sérieux ». 2 millions de chômeurs, ça vous fait rire ? Très engageant. Pendant ce temps, François Mitterrand poursuit sa réflexion. Cette fois, il faut se positionner plus au centre. En 81, sa gauche a fait rêver, c'est son ADN. Une fois au pouvoir, et malgré le grand succès historique, la gauche déçoit parce qu'on attend trop d'elle. Alors il faut capter les électeurs centristes. Et il y a un réservoir chez des Français peu convaincus par le gouvernement Chirac. En cet automne 87, le Figaro titre « Le PS en campagne, sans savoir pour qui ». Alors, on fait gentiment pression, on tontonise le message. Oui, nous sommes en pleine période tontomania. Ainsi, les socialistes Maurice Benassayag et Paul Quilès lancent l'association avec François Mitterrand. Et Jack Lang, tontomaniaque en chef, encore aidé de Séguéla, sort l'artillerie lourde. Des tribunes de soutien d'acteurs et de chanteurs, comme cette photo pleine page de Renault parue dans la presse.
Tonton, laisse pas béton, dit la légende. Cet appel à l'initiative du mouvement individuel, énervant et indépendant, pour la réélection de François Mitterrand, une pub signée Renault, pour inviter le président de la République à se représenter. Aujourd'hui encore dans le matin, 350 maires, présidents de conseils généraux, conseillers régionaux et parlementaires publient une lettre adressée au président pour lui demander de continuer. Parallèlement, commence une campagne d'affichage du Parti Socialiste avec pour thème la devise de la République française, dont, à l'évidence, on veut démontrer qu'elle est bafouée. Autant de signes qui montrent que les socialistes entrent en campagne, campagne sur papier d'abord, campagne tout terrain dans un proche avenir.
En ce début de mois de décembre 87, en réalité, François Mitterrand a déjà pris sa décision. Il vient même d'inviter Michel Rocard à déjeuner, à l'Élysée, pour lui annoncer la nouvelle. Il va y aller. Sa principale motivation, s'il ne se représente pas, il fera un cadeau aux gaullistes. Il ne veut confier à personne d'autre la tâche de les chasser du pouvoir. Il veut, rapporte-t-on, les écraser lui-même. Et c'est là qu'en éternel prince de l'ambiguïté, il dit à Michel Rocard « Préparez-vous. Il y en a d'autres qui, après la victoire, pourront jouer un grand rôle. À mes yeux, vous n'êtes pas le seul, je ne vous le cache pas, mais vous en êtes. » Rocard comprend alors que Matignon est à sa portée. Eh bien, s'il en est ainsi, il servira la campagne de François Mitterrand, on ne lui arrachera plus un mot contre le candidat. Quand arrivent les fêtes de Noël, la famille Mitterrand s'envole pour l'Égypte où elle a pris ses habitudes. Cette année, les Badinter les accompagnent. Au petit matin, les voici au milieu de touristes en train de gravir les marches. Après une longue halte au sommet, ils redescendent. Et au retour, Robert Badinter glisse à sa femme. Il a tenu le coup. Sa décision est prise. Comme un test ultime de résistance physique avant de plonger dans la bataille. Au retour de l'ascension, François Mitterrand s'enferme avec son ami Charles Salzman, son homme des sondages. Le pronostic est clair. S'il oriente sa campagne sur le thème de l'unité française, de l'union des Français, son score devrait atteindre entre 53 et 54%. Mais l'heure n'est pas encore venue d'annoncer sa candidature aux Français.
J'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République. Et je voudrais, mes chers compatriotes, vous donner mes raisons. En mars 1986, la majorité à laquelle vous avez donné votre confiance a choisi, comme elle le devait, d'assumer ses responsabilités. J'ai alors accepté d'être le chef du gouvernement pour entreprendre sans retard le redressement nécessaire de notre pays, pour préserver l'unité des Français et pour respecter nos institutions. La tâche n'était pas facile, et je le savais. Pourtant, nous avons travaillé, et dans beaucoup de domaines, nous avons réussi. Aujourd'hui, les conditions sont réunies pour franchir une nouvelle étape, et nous en avons les moyens.
16 janvier 88, Jacques Chirac se lance dans la course et l'annonce depuis ses bureaux de Matignon. À droite, il doit composer avec une autre candidature, celle de l'ancien ministre de l'économie, Raymond Barre, et ancien Premier ministre. Le leader de l'UDF dévoile à son tour sa candidature début février à Lyon, entouré de ses amis centristes.
Je souhaite que la raison de la situation essentielle.
En ce début d'année, un duel s'installe entre les deux candidats de droite. François Mitterrand est aux premières loges pour observer cet affrontement fratricide dont la droite est championne à l'époque. Raymond Barre est un concurrent solide. À 4 mois du premier tour, il devance nettement le président des RPR enlisé dans l'enfer de Matignon. Et d'aucuns voient déjà l'ancien premier ministre de Giscard à l'Élysée, qui pourtant finira comme beaucoup de favoris, à l'instar des Chaban, Balladur, Bayrou, à la pire des places, la troisième, celle qui vous condamne à soutenir l'autre candidat de votre famille politique, celle ou celui qui vous exaspère. Et puis il y a Jean-Marie Le Pen, à la différence de 81. Le leader du Front National n'a eu aucun mal à récolter ses 500 signatures, ce qui n'augure rien de bon. L'extrême droite commence à peser dans les débats. C'est à ce moment-là que François Mitterrand donne son feu vert pour lancer une campagne d'affichage assez géniale. 5000 panneaux publicitaires recouverts du slogan « Génération Mitterrand », accompagnés de la photo d'un bébé qui saisit la main tendue et protectrice d'un père, ou peut-être d'un grand-père. En réalité, c'est la main de Séguéla. Oui, ce slogan est top, parce qu'il ne veut rien dire de précis, mais il diffuse le message subliminal selon lequel il existe une génération Mitterrand. Entendez, les jeunes. Et c'est à ce moment-là, également, qu'on sait enfin quand François Mitterrand se prononcera. Alors, ira pas, il le dira le 15 mars, pas avant. En attendant, charge à ses troupes de poursuivre cette campagne sans candidat. Alors, Lionel Jospin, premier secrétaire du PS, court la France et organise les meetings avec un seul message. Le premier ministre Chirac n'a pas l'étoffe d'un président.
Ma première question.
Il y a deux mois
que je serai le dernier.
Contre les rigueurs de la nature.
Premier journaliste de France et de Navarre à vous poser cette question, monsieur le président.
Ciel, à travers les nuages, quel représage pour un aiguilleur de ciel. Fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil, tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle, tombé du haut de la passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu volage, ancien tueur à gages. Comment peut-on tomber du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges du paradis originel, tombé du sommeil, perdu connaissance, retombé en enfance, au pied du grand sapin de Noël, voilé de mystère, sous mon regard.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la réélection de François Mitterrand en 1988.
Affaires Sensibles. Fabrice Drouel.
Ma première question est simple et directe à la fois, vous allez le voir. Quelque chose me dit d'ailleurs que je serai le dernier journaliste de France et de Navarre à vous poser cette question, monsieur le Président. Êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République ?
Oui. Vous avez mûrement réfléchi ?
Je le crois. On peut savoir quand vous avez pris cette décision ? Certains disent c'est en juillet 87, d'autres disent c'est pendant les fêtes de fin d'année.
Je n'en sais rien moi-même. Au fond, pourquoi briguez-vous un second mandat, monsieur le Président ? J'allais dire, monsieur le candidat.
Vous savez, depuis déjà quelques mois, j'ai beaucoup écouté les discours des uns et des autres. Et dans tout ce bruit, j'aperçois un risque pour le pays de retomber dans les querelles et les divisions qui si souvent l'ont miné. Eh bien, je veux que la France soit unie.
Vous avez entendu, François Mitterrand répond avec un oui de chanoine, presque un oui, et le débat est clos. Depuis des mois, il dit à qui veut l'entendre, mes amis ont du mal à me convaincre d'y aller, pas mes adversaires. La politique menée par le gouvernement Chirac, mais surtout le clanisme de son équipe, lui inspire un réel dégoût. Viscéralement, François Mitterrand juge Jacques Chirac inapte à exercer les plus hautes fonctions. Et puis, partir et lui céder la place après l'échec des législatives serait un second échec, une fin politique indigne. François Mitterrand ajoute « Je veux que la France soit unie », en mode rassembleur, exactement le registre travaillé avec Salzman en Égypte. Il ne peut plus être le candidat dogmatique de 81 prêt à changer la France. Il est à la tête du pays depuis 7 ans. Mais il sait aussi que les circonstances lui sont favorables. Il dispose d'un capital de près de 39% des suffrages, selon les sondages. Et il n'a aucun concurrent sérieux à gauche. Il peut presque faire l'économie d'une campagne de premier tour. Le 24 mars, au QG de campagne, avenue Franco-Russe, le premier point presse est l'occasion de présenter l'équipe. Aux côtés de Jacques Lang et de Pierre Bérégovoy, Michel Rocard sera porte-parole de François Mitterrand. Les 23 membres de l'équipe sont en grande partie d'anciens ministres socialistes. Mais dans les faits, la campagne sera organisée depuis l'Élysée. Parallèlement à l'équipe officielle en effet, une ribambelle d'énarques dans la pénombre des directions ministérielles livre chaque jour son lot de notes en tout genre. On murmure qu'il serait 150 sur les pieds de guerre. Quant aux déclarations de Jacques Chirac, elles sont passées au peigne fin par un petit groupe de surveillance qui bat les chaînes de télé et stations de radio tout au long de la journée. Une armada, un professionnalisme au-dessus de tout soupçon. De son côté, depuis début mars, François Mitterrand travaille une longue lettre destinée aux Français. Et le 7 avril, 3 millions de livrets de 47 pages sortent des rotatives. Un condensé de ce que veut le candidat socialiste pour la France, mais qui laisse sceptique de tous côtés, comme Raymond Barre notamment.
Je l'ai lu avec beaucoup d'attention, c'est une longue lettre. Après l'avoir lu, je me suis demandé si l'on ne pourrait pas dire que c'est la lettre de l'apôtre François aux Gaulois, ou si de temps à autre on ne pourrait pas évoquer Alphonse Lamartine. Alors, il y a beaucoup de méditation, il y a des passages où la méditation porte sur un certain nombre de nos problèmes, de nos phénomènes de société. Monsieur Mitterrand s'avance sur le terrain de la modération, il s'avance masqué. Et ce n'est pas en empruntant une ou deux mesures ou une ou deux orientations à ceux qui ont toujours manifesté cette attitude que l'on peut être convaincant. Mais ça, c'est l'affaire des électeurs.
Dans un article du Monde, le journaliste Laurent Grelzamer parle d'un ovni politique taillé comme un discours du XVIIIe siècle. S'il y a bien quelques propositions, comme le rétablissement de l'impôt sur les grandes fortunes et la création d'un revenu minimum d'insertion, c'est surtout le ni nationalisation ni privatisation qui marque les électeurs. Le fameux Nini. Le Mitterrand, socialiste de 81, est devenu social-démocrate bon temps. Social-traître pour les communistes. Mais les militants du PS, eux aussi, sont désorientés par cette ouverture au centre, avec un curseur décalé vers la droite. D'ailleurs, certains l'ont relevé, Lionel Jospin prend soin de parler du candidat soutenu par les socialistes et non pas du candidat socialiste. Il faut dire que le 5 avril, dans le troisième sous-sol d'un bâtiment de l'Assemblée nationale, quelques caciques se réunissaient pour évoquer le rôle du PS dans la campagne. Et Louis Mermaz prévient, il ne faut pas afficher partout François Mitterrand avec le poing et la rose. Malaise pour certains dans le sérail. Et c'est le moment que choisit son premier secrétaire, Lionel Jospin, pour s'éclipser en vacances. Des vacances réprobatrices qui disent « Eh bien, démerdez-vous ». Le plan de campagne est sobre. 4 grands meetings, 2 émissions de radio, 1 passage à la télé et c'est tout. Nul besoin d'en faire trop. Mieux vaut garder de la hauteur. Et ce, entouré d'une flopée d'artistes présents lors des meetings, comme à Rennes, ce 8 avril 1988, où Barbara lance les festivités en chantant « L'homme à la rose ».
Barbara chante l'homme à la rose, François Mitterrand entre sous le chapiteau, entouré d'une trentaine de jeunes gens.
Au pupitre, François Mitterrand entonne à son tour sa nouvelle rengaine, celle de la France unie, mot d'ordre destiné à le distinguer de son rival Jacques Chirac.
Les mots sont les mêmes, mais les choses ne le sont pas. Par exemple, on est tous pour la recherche. Mais il y en a qui augmentent les crédits et il y en a qui les baissent. On est tous pour la musique, mais il y en a qui créent des chaînes musicales et il y en a qui les suppriment. On est tous pour l'éducation, mais on voit les crédits monter et on les voit descendre. On est tous pour l'Europe, il y en a qui disent oui et il y en a qui font non. On est tous pour la paix, il y en a qui y vont vite, il y en a d'autres qui y vont lentement. On est tous contre l'apartheid, mais il y en a qui fréquentent et d'autres qui ne fréquentent pas.
Dans sa perspective centriste, le président candidat fait quelques appels du pied à la droite pendant son discours, un peu trop appuyé au goût de ses supporters. D'ailleurs, il se fait siffler 3 fois. Un épisode qui lui vaut cette pique de l'humoriste Guy Bedos. Avant, je votais Mitterrand les yeux fermés, maintenant, en plus, je me bouche les oreilles. Si le candidat est sûr de son socle de voix, il remarque bien qu'à 11 jours du premier tour, sa campagne s'enlise un peu. Enfin, elle patine, quoi. Le 13 avril, il réunit donc les dirigeants du parti au siège de campagne et lance exaspéré « Mais arrêtez de vous morfondre, essayez d'exister. Qui a dit qu'il ne doit pas y avoir de banderole du PS dans la campagne ?» Dans un rectus, Lionel Jospin lui répond « Les responsables de la com, à l'Élysée. » Alors, machine arrière, d'un coup, le poing et la rose refleurit sur les affiches. Quant au plan de campagne, il est balayé d'un revers de la main. Dans la dernière ligne droite, les interventions de François Mitterrand deviennent quasi quotidiennes. L'un de ses proches glissera. Tonton était suspendu dans la stratosphère. Il vient de redescendre sur Terre parmi les humains. Ce retour à la réalité va se manifester sous la forme d'une tragédie à 2 jours du premier tour. En Nouvelle-Calédonie, 4 gendarmes sont tués. Et 27 pris en otage, détenus dans une grotte à Ouvéa.
C'est en rentrant de patrouille tôt ce matin, vers 7h, heure locale, que les gendarmes de l'île d'Ouvéa ont été attaqués par une trentaine d'individus masqués portant des fusils et des machettes. Des militants indépendantistes qualifiés par leur leader, Jean-Marie Tjibaou, d'autonomes, donc incontrôlables. Très vite, c'est le carnage sur place. 3 gendarmes tombent sous les balles. Un 4e vient d'être rapatrié à Nouméa, le crâne fracassé. Alors que la brigade est attaquée, un gendarme donne l'alerte à Nouméa, mais la ligne est brusquement coupée. Depuis, les liaisons n'ont pas été rétablies entre Ouvéa et Nouméa. Immédiatement, des renforts ont été envoyés par hélicoptère sur place, alors que l'on a appris tout à l'heure que 26 gendarmes ont été emmenés dans la brousse, où ils sont toujours séquestrés. 3 morts, 20 de blessés, dont un gendarme très grièvement. C'est l'attentat le plus grave perpétré ici en Nouvelle-Calédonie depuis les événements de 84. De Nouméa, Serge Martin, France Inter.
Le chef de l'État apprend la nouvelle par la radio. Matignon, où officie toujours son rival Jacques Chirac, l'a tenu à l'écart de l'information officielle. Et le lendemain, le Figaro publie une photo de lui en compagnie de Jean-Marie Tjibaou, le président du Front de Libération Nationale, Kanak et socialiste. Avec ce commentaire, L'Élysée savait, le FLNKS y avait été reçu la veille, sous-entendu. Le chef de l'État est complice dans l'assassinat des gendarmes français. Une vingtaine de gendarmes pris en otage au bout du monde par une population révoltée, et ce alors que les deux têtes de l'exécutif se livrent une bataille sans merci pour le prochain mandat présidentiel, la situation est inédite. Et elle risque de faire des dégâts. François Mitterrand le pressent. Alors il écrit à celui qui est encore son premier ministre pour lui interdire toute opération d'envergure, en particulier tout usage de l'armée sans son accord préalable. À la veille du premier tour, les sondages restent cependant très favorables au président sortant. Il est crédité de 35% des voix contre 25% pour Jacques Chirac et près de 18% pour Raymond Barre. Le lendemain, à Château-Chinon, il découvre sans surprise les résultats et pour ses rivaux, évidemment c'est la douche froide.
Voilà, vous l'avez vu, d'après cette estimation de 20h, donc Bulle BVA, c'est François Mitterrand et Jacques Chirac qui seront face à face avec ce score, 34,4% pour François Mitterrand et 19,5% pour Jacques Chirac. On fait le point sur les 5 premiers candidats, peut-être.
Oui, les 5 premiers en ordre d'arrivée, vous allez les voir. François Mitterrand donc, 34,4% des voix. Jacques Chirac en deuxième position, 19,5%. Raymond Barre, 16,5%. Jean-Marie Le Pen, 14,4%. Ce sera l'un des événements de cette soirée. Enfin, André Lajoigny, 7,1%. Confirmation du recul des communistes.
Même pas 20% pour Chirac. Une gifle qui lui interdit quasiment tout espoir de remonter. Et surtout, des voix qui semblent être passées à l'extrême droite. Jean-Marie Le Pen affiche un score bien supérieur au pronostic des sondeurs, à un peu plus de 14%. Peut-être est-ce là d'ailleurs le principal enseignement de ce scrutin, la montée inexorable de l'extrême droite en France. L'avenir ne cessera de le confirmer. En tout cas, et pour l'heure, cet entre-deux-tours s'annonce comme une formalité pour le président sortant. Il se doute pourtant que son rival tentera le tout pour le tout dans cette dernière ligne droite. Un point, cela dit, qu'il n'imagine pas encore. Les deux candidats prennent rendez-vous pour le 28 avril, jour du débat. Ce sera au lendemain du Conseil des ministres. Un conseil d'ailleurs qui sera le plus tendu de toute cette législature, avec le premier aussi. Le président cherche du regard les ministres sans qu'un seul ne lève les yeux. Lui qui a été l'assiégé durant 2 ans redevient l'assiégeant. Le soir du débat, François Mitterrand reprend les mêmes rituels qu'en 74 et 81, la même promenade dans l'après-midi, les mêmes fiches classées par ordre alphabétique. Bien. À l'antenne, les attaques du Premier ministre le mettent dans une colère froide, la plus féroce qui soit concernant François Mitterrand. Notamment lorsque ce dernier lui reproche un soi-disant laxisme dans sa politique judiciaire. Des propos indignes, déclare le président candidat, qui d'une voix glaciale se met alors à dévoiler une conversation entre eux deux, l'un de ces échanges qui aurait dû rester parmi les secrets de l'exercice de l'État.
Je me souviens des conditions dans lesquelles vous avez renvoyé en Iran M. Gorgi, après m'avoir expliqué à moi, dans mon bureau, que son dossier était écrasant et que la complicité était démontrée dans les assassinats qui avaient ensanglanté Paris à la fin de 1986. Voilà pourquoi je trouve indigne de vous l'ensemble de ces insinuations.
M. Mitterrand, tout d'un coup, vous dérapez dans la fureur. Je voudrais simplement relever un point dont je ne sais pas s'il est digne ou indigne de vous. Je vous ai toujours dit que cette affaire était du seul ressort du juge, que je n'arrivais pas à savoir, ce qui est normal compte tenu de la séparation des pouvoirs, ce qu'il y avait dans ce dossier, et que par conséquent il m'était impossible de dire si véritablement Gorgi était ou non impliqué dans ces affaires. Pouvez-vous vraiment contester ma version des choses en me regardant dans les yeux?
Dans si les oui. yeux, je la conteste, je la conteste, je la conteste, je la conteste.
2 heures d'une grande tension devant 28 millions de Français. À la fin du débat, un ami rapporte à Jacques Attali cette phrase de Jacques Chirac. « Je ne savais pas que Mitterrand me détestait autant. » En vérité, le chef de l'État apprécie l'énergie de son premier ministre. Mais il estime ses compétences gâchées par un certain sens de l'improvisation et un entourage parfois mal choisi. Charles Pasqua en particulier, alors ministre de l'Intérieur, qui s'active depuis des jours pour renverser la vapeur. Il est sur tous les fronts, notamment aux côtés du Quai d'Orsay pour tenter un gros coup, libérer les otages du Liban. Depuis 3 ans, les diplomates Marcel Carton et Marcel Fontaine, ainsi que le journaliste Jean-Paul Kaufmann, sont aux mains du djihad islamique. De précédentes négociations ont déjà échoué. Mais miraculeusement, à 4 jours du premier tour, l'affaire se dénoue. À 20h20, l'AFP annonce la libération à Beyrouth des 3 otages français. François Mitterrand l'apprend par un coup de téléphone de son homologue syrien. Matignon ne daigne même pas le prévenir. Sur le tarmac, il n'y aura que Chirac et Passois pour accueillir les otages libérés. Un scénario qui fait grincer des dents et sème le doute, comme l'illustre cette séquence d'une émission satirique censée faire rire le bébé de chaud.
C'est pas un peu curieux, hein? Je pose une question idiote, mais qu'ils aient été libérés comme ça, juste avant le deuxième tour, eh ben moi, ça me paraît bizarre.
À l'enflure, il est malin, ça me scie la nouille.
Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est ce que tu as pu promettre au djihad islamique pour qu'il libère les otages. Moi, j'ai rien promis. Enfin, 3 fois rien.
Écoute, maintenant, il y en a marre, pas de quoi. Ouais, oh. Tu vas le dire ce que t'as promis, tu vas le dire.
Aïe, 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 lâche-moi. Bon, ça va, je vais parler. Je leur ai promis...
Oui.
Que je les rendrai lundi.
Le lendemain, le 5 mai, c'est l'affaire calédonienne, la grotte d'Ouvéa. Et là encore, c'est par la presse que François Mitterrand apprend que l'armée française a donné l'assaut à 6h du matin et que la vingtaine d'otages a été libérée.
Plusieurs morts dans les rangs des indépendantistes, c'est ce que, officieusement, nous avons appris il y a quelques minutes. Parmi eux, vraisemblablement, le chef du commando, Alphonse Dianou. Sur ordre de Bernard Ponce, l'assaut a été donné tôt ce matin dans la grotte où étaient prisonniers 22 gendarmes et le substitut du procureur, et pour certains depuis 14 jours.
À l'Élysée, François Mitterrand enrage. 21 morts, 19 canaques et 2 militaires. Et tout ça pour gagner quelques voix qui ne feront même pas la différence. À l'avant-veille du scrutin, l'équipe chiracienne joue le tout pour le tout. Et les séquences s'enchaînent. Le lendemain, 6 mai, c'est un nouveau revirement, et cette fois du côté de la Nouvelle-Zélande.
Le journal Alain Bédoué.
Bonsoir. L'espionne qui venait du show, le capitaine Prieur, un des 2 agents du Rainbow Warrior, nous ramène un bébé. Elle est rapatriée pour raison médicale. Fureur de la Nouvelle-Zélande. Les explications de Pierre Veil dans un instant.
L'Élysée apprend, toujours par la radio, que l'ex-épouse Durange, protagoniste de l'affaire du Rainbow Warrior, placée en résidence surveillée, rentre en France pour sa grossesse. Enceinte, répond Mitterrand. Depuis combien de minutes? Et d'ajouter en soupirant, Chirac aura vraiment chargé la barque en une semaine. Cette fantasia me coûtera bien 0,5 point le 8 mai. Le même jour, il donne le tout dernier meeting électoral de sa vie à Toulouse. Une soirée marquée par une profonde émotion qu'il lâche avec ces mots. Amis qui m'entendaient, c'en est fini de nos rencontres de ce type pour ce soir et d'autres soirs, pour cette campagne présidentielle. Il y aura d'autres combats. Vous y serez, je n'en serai pas éloigné. Dimanche 8 mai 1988, l'heure du verdict a sonné. Alors qu'il déjeune au Vieux-Morvan chez son ami Ginette Chevrier, le téléphone sonne à 14h et c'est Charles Sazman, le sondeur. « Vous n'aurez pas moins de 53 %, lui annonce-t-il.
Voilà donc l'image de ce nouveau président de la République. François Mitterrand vient d'être réélu selon l'estimation Bulle BVA avec 53,9 % des voix. Ce qui veut dire, on va le voir tout de suite, que Jacques Chirac a obtenu sur compté 46,1 % de ces mêmes voix.
Et voilà, c'est reparti pour 7 ans. Mais tiendra-t-il? Et avec qui à ses côtés? Maintenant, il faut dissoudre l'Assemblée pour y gagner une nouvelle majorité. Le 9 mai, Michel Rocard est convoqué à l'Élysée. Mais pas pour être nommé à Matignon, non. Pour entendre Mitterrand lui confier ses doutes. Si je choisis Pierre Bérégovoy, on dira que c'est moi qui gouverne. Si c'est vous, on dira que le Premier ministre est autonome. Mais cela n'a pas que des avantages. Le 10 mai, 2 jours après sa réélection, le président n'a pas plus tranché. Il poursuit ses consultations et déjeune à nouveau avec Michel Rocard, qui encore une fois ressort bredouille. Par ses silences et ses sous-entendus, François Mitterrand parvient à instiller le doute. Que va-t-il décider? C'est finalement à 17h30, ce même jour, qu'il apprendra sa nomination par un coup de fil. Michel Rocard entre à Matignon. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est le peu de latitude que lui laissera le chef de l'État pour composer son gouvernement et les affrontements qui l'attendent avec celui qu'il a nommé. C'est bien connu, un Premier ministre est toujours le bouclier du président qui redit à son entourage, étonné de ce choix, « Rocard, dans 2 ans, on verra à travers ». Rocard, viré comme un malpropre un jour de mai 1991, il aura tenu 3 ans et François Mitterrand consacrera son 2e mandat à la construction de l'Europe, selon lui, sa grande œuvre. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Mitterrand 88, avancez le fauteuil. On en parle avec notre invité François-Olivier Gisbert. Bonjour.
Bonjour.
Alors, éditorialiste, bien sûr, journaliste. Je rappelle votre dernière livraison, Mémoire intime de la 5e République. C'est en 3 tomes. Alors, il y a Le Sursaut, période de Gaulle, La Belle Époque, Pompidou, Giscard et Tragédie française, le 3e, de Mitterrand à Macron. Quand on se penche sur le récit de ce scrutin 88, on a l'impression qu'il était pour François Mitterrand un scrutin facile. Je le disais, une élection dans un fauteuil. Probablement l'élection la plus facile depuis la victoire aisée de Georges Pompidou en 69. C'est aussi votre sentiment ?
Oui. Oui, parce que, en fait, Chirac était un peu comme une bête blessée. Après l'affaire Malek-Ossikine, vous savez, ce jeune étudiant d'origine immigrée, tué par les policiers, effectivement, rue Monsieur le Prince, c'était une affaire absolument énorme. J'ai ça a cassé vraiment la cohabitation, enfin, le gouvernement de Jacques Chirac. On voit bien, après, ça a été très compliqué pour lui, et il a beaucoup boité. Même si, quand on regarde les choses avec un peu de recul, c'est une période où Chirac a été bon aux affaires, c'est-à-dire notamment sur le plan économique, enfin, il a fait bouger beaucoup de choses. C'est un gouvernement qui a vraiment beaucoup travaillé. Mais à l'arrivée, c'est fini. C'est fini et il est clair, enfin, pour moi en tout cas, que Mitterrand sera candidat. Et je raconte d'ailleurs dans mon livre sur Mitterrand, je raconte une histoire, ça c'est du Mitterrand tout craché, tout à fait par hasard, on se croise dans l'escalier de l'Élysée, et il me dit, mais je comprends pas pourquoi il paraît que vous êtes encore en train d'écrire un livre sur moi. Peut-être qu'il n'était pas, il n'aimait pas forcément les livres que j'écrivais sur lui, enfin pas toujours, enfin même pas du tout d'ailleurs. Et je lui dis, oui, et il me dit, mais vous avez tort, qu'est-ce qui vous dit que je vais être candidat ? Et c'était, il essayait d'expliquer à tout le monde qu'il ne serait pas candidat. Or, si on regarde bien la réalité des choses, dès l'automne 1987, il avait à peu près organisé, Pierre Bérégovoy s'occuperait de l'organisation, Jacques Lang de la communication, etc. Enfin, il avait déjà sa petite équipe, c'est-à-dire, et puis il y pensait, c'était absolument évident. C'est pour ça que c'était une sorte de secret de Polichinelle, quand il y a eu cette espèce d'interview un peu ridicule, où il a dit, oui, je serai candidat, mais enfin, tout le monde le savait. Je me souviens, enfin, dans les rédactions, personne n'était étonné.
D'ailleurs, dès le mois de décembre, il en parle avec Michel Rocard, donc ça corrobore
ce que vous dites. Oui, bien sûr, tout à fait.
Alors, vous disiez que, effectivement...
Et déjà, dès 1987, c'est intéressant dans ce que vous racontez sur les filets qu'il essaye de tendre vers la droite, déjà, il travaillait, il parlait avec les uns les autres, c'est-à-dire l'année précédente, précédant l'élection, il parlait de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la droite, et puis après, si je ne suis pas obligé de dissoudre, je pourrais peut-être essayer, si je mettais Giscard à Matignon, qu'est-ce qui se passerait ? Ou Simone Veil. C'est des conversations qu'il avait avec son ami Jacques Chaban-Delmas, qu'il voyait souvent.
Oui.
Et puis, également, qui était un ancien Premier ministre de Georges Pompidou, comme chacun sait, également souvent président, enfin non, qui a joué un grand rôle pendant la 4e République, gaulliste historique, enfin baron du gaullisme. Et puis, il voyait aussi beaucoup Maurice Faure, qui était certainement un des hommes les plus intelligents de cette époque.
Encore enfin, un homme de 4e, 5e République.
Oui, mais enfin, il est arrivé tard sur la 4e République, c'est pas vraiment un homme de la 4e. Mais c'était quelqu'un d'une intelligence absolument hallucinante. Enfin, d'ailleurs, Mitterrand disait toujours, il est meilleur que moi. Hein. Il avait une voix de fausset un peu. Donc ça peut-être ça réduit à une grande.
Et il est mort fin mars 88 d'ailleurs.
Oui, et Mitterrand l'adorait. Et justement, il disait mais qu'est-ce que oui, on pourrait essayer de faire quand même. J'aurais maintenant essayé de faire avec la droite parce que bon. Les communistes n'existaient plus vraiment. Hein. On peut dire qu'ils les avaient détruits avec l'union de la gauche. Et là, il avait envie de regarder à droite.
Alors, les jeunes, vous disiez que la cassure pour le Chirac et son gouvernement pendant la cohabitation de 86 à 88, c'était cette affaire dramatique de Malek-Ossikine. Donc, Chirac s'est probablement mis une bonne part des jeunes à dos. Oui, et François Mitterrand les a récupérés, alors,
absolument.
Avec beaucoup de talent, avec SOS Racisme, les chanteurs Renault, les chanteurs Branchouille.
Oui, puisqu'on appelait à l'époque l'immigrationnisme, c'est-à-dire, voilà, il faut plus d'immigrés, etc. Et ça, c'est vrai que ça a été... Puis, effectivement, c'était une période, en plus... où l'immigration était populaire. Ça, on oublie toujours de le dire, mais regardez, tous ces chanteurs, Daniel Balavoine, Ziza, vous vous souvenez de toutes ces chansons
Rachita, qu'on vient d'entendre.
Là-bas de Jean-Jacques Goldman, et puis bon, alors mon ami Rachita, que j'adorais, qui est un formidable chanteur, on n'a pas entendu sa meilleure chanson, c'était l'époque pour lui de Carte de séjour, mais quand il était tout seul, c'était absolument formidable. Et puis tous les autres, et puis Raled, etc. Souvenez-vous, c'était à la radio absolument sans arrêt. Il y a eu cette période comme ça. Bon, et puis après, ça a changé, bien sûr.
Pierre-François Mitterrand avait 72 ans, mais il était le candidat des jeunes. Il apparaissait plus jeune, plus moderne, plus branché que son rival, plus jeune que lui.
Ben, il avait quelque chose de très moderne, de toute façon, Mitterrand. Vous savez, c'était une culture inouïe, parce que c'était un homme très cultivé, qui lisait beaucoup, et qui en même temps parlait comme dans les livres. Et l'idée que c'était un écrivain raté, c'est idiot, parce qu'il se moquait de moi toujours, parce que je voulais devenir écrivain. Il disait, Drieu La Rochelle, vous savez, l'ancien... enfin, l'écrivain d'extrême droite, enfin, pétainiste même, enfin, bon, proche du régime de Vichy,
oui, bien impliqué,
qui a écrit d'ailleurs des bons romans, de très bons romans, c'était toujours cette phrase, c'est être écrivain, c'est une façon d'être riche et célèbre. Mitterrand disait, bah, il ne connaît pas notre époque. Et c'était assez prophétique ce que disait Mitterrand. Moi, je crois qu'écrivain, c'est devenu plutôt la meilleure façon d'être pauvre et inconnu. Mmh. Voilà. C'était le genre de blague qu'il faisait en permanence, mais il parlait comme un écrivain. Ouais. C'est-à-dire qu'il avait des phrases d'écrivain tout le temps,
tout à fait.
Qu'on notait, qu'on... Bah, vous avez cité...
On sort de l'ambiguïté qu'a ses dépens.
Ça, c'est une phrase que j'ai sortie. Et j'ai cherché, parce qu'il citait, il disait que c'est le cardinal de Ray.
Bon. Qui avait dit ça ?
Ouais, il disait ça. C'est faux ! J'ai regardé tous les bouquins, j'ai pas trouvé. Après, j'ai été lui en parler, il m'a dit « Oh, ben c'est peut-être Mazarin, ou c'est peut-être je sais... » Enfin bon, bref. Et en fait, je pense que c'est une formule qu'il avait sortie lui-même,
oui,
et que
peut-être lui, tout simplement.
Il avait attribué à quelqu'un, tout simplement, comme ça lui pouvait lui arriver, ça arrivait à tout le monde.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
François-Olivier Gisbert, il n'y a pas eu beaucoup de suspense dans cette élection de 88, hein, on l'a dit. En revanche, il y a eu quand même des sensations, notamment pendant le débat.
Ah oui,
alors, vous avez assisté, comme nous tous, à plusieurs débats présidentiels. Celui-là apparaît comme peut-être le plus violent, le plus âpre.
C'est d'une violence rare. Et je dirais qu'elle vient plutôt de Mitterrand. Mais Mitterrand a quelque chose de très particulier dans le personnel politique. C'est quelqu'un, et il n'est pas dans la haine, Mitterrand, mais il hait toujours ceux qui sont en face de lui. Ça, c'est une force aussi.
Au
moment où il doit les affronter, ou au moment où ils sont là, après, il ne les déteste plus.
Comme un sportif, quoi.
C'est d'ailleurs toute l'idée qu'il détestait Chirac avant, après, tout ça, c'est des conneries. Ça, c'est des... Ouais, j'entends lire ça, moi, je l'ai vu beaucoup dans ces périodes. Enfin, Chirac, il aimait bien Chirac.
D'ailleurs, on l'a dit, il appréciait son énergie.
Son énergie. Ça, c'est pas tout à fait exact non plus.
Ouais,
c'est ce que disent tous les courtisans autour. Mais par exemple, quand on parlait avec lui, moi, je me souviens avoir entendu, mais j'ai vraiment entendu. Quand même, sur l'islamisme, l'intégrisme, il est bien, hein, il connaît ses dossiers. Enfin, voilà, il le voyait comme ça. Mais Chirac, il avait cette force-là. Enfin, je veux dire, il était dans le monde arabe, là, il était comme un poisson dans l'eau. C'est tout le monde. Et donc, ça, Mitterrand était conscient. Mais il pouvait le dire hors les périodes où il l'avait en face de lui. Et là, c'était la haine totale. Les trucs sur le clanisme, etc. Vous avez raison. L'État Chirac, après d'ailleurs l'État Mitterrand ou l'État PS, parce que c'était la même chose, il vous parlait. Puis après, il n'en parlait plus. Et puis, brusquement, quand Balladur est arrivé au pouvoir, il a commencé à aimer Chirac. Mais là, le débat, la haine est terrible parce que, d'abord, c'est Chirac qui le cherche. Hein, il revient sur l'histoire d'Action Directe, où c'est vrai qu'il y a eu des complaisances des gouvernements socialistes à l'égard de ce groupe terroriste qui a tué quand même un certain nombre de gens.
Il n'a pas aimé du tout Mitterrand, le côté laxisme.
Il devient fou.
Oui.
Et donc, là-dessus, il sort un truc qui est faux. C'est-à-dire,
ou c'est pas faux. Vous savez ?
J'en ai la preuve. Dans mon livre, je cite tout simplement Mitterrand, qui dit « Ah non, c'est vrai, Chirac ne l'avait pas dit ». Et pourquoi Chirac fait ça ? Vous voyez, j'ai ressorti le livre, c'est un rendez-vous que j'ai eu avec François Mitterrand le 18 septembre 1989. C'était, je faisais le livre justement dont je parlais, et c'était ce jour-là, il me fait venir, j'ai deux magnétophones. Et je me souviens très bien, quand il me dit cette phrase, Ah non, 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 c'est vrai que c'est pas Mitterrand, c'est pas... Mitterrand m'a dit, c'est pas Chirac qui l'a dit, c'est effectivement, c'est Pasqua et Pandreau. Et après, il leur a donné raison, mais ça s'est pas passé comme ça. Enfin, bon, il reconnaît, il raconte l'histoire telle qu'elle s'est passée. Mm-hmm. Et c'est pour ça que vous avez ce côté interloqué de Chirac, qui est un peu la tête d'Oswald, vous savez, quand Ruby l'assassine, oui. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il a reçu vraiment la chevrotine dans l'estomac. Il est complètement étonné, et parce que il dit, mais c'est pas possible qu'il mente comme ça. Mais Mitterrand a menti. Et vous savez quoi, ce qui s'est passé? C'est que j'avais mes deux magnétophones, et ça c'est une scène incroyable, ça ne s'invente pas. Et ils sont là, dont un très vieux d'ailleurs, un très gros et vieux, et ils sont là sur le bureau du président, je suis tout contre, et il me dit, vous pouvez vérifier si ça marche? C'est vrai, bien sûr que les deux magnétos marchent pour que ça puisse être enregistré pour l'histoire. Et je pense qu'il souhaitait que ça sorte, disons, avant la prochaine cohabitation, parce que Mitterrand avait toujours quelques coups d'avance. Hein. C'était pas le court-termisme que nous connaissons aujourd'hui. Il n'était pas toujours dans l'immédiat. Il voyait ce qui allait peut-être se passer plus tard. Et donc, au fond, j'ai toujours pensé, d'ailleurs, il y avait un côté radical-socialiste chez les deux. N'oubliez jamais qu'ils ont commencé avec le même. C'est le même. Qui leur dit, ah ben c'est une histoire incroyable. Henri Queuil, ancien président du Conseil, radical socialiste, corrézien, c'est lui qui dit à Mitterrand, vous devriez aller vous présenter dans le Morvan, dans la Nièvre. Mmh. Et Mitterrand le fait, donc d'une certaine manière, il est béni par Henri Queuil,
le petit père Queuil.
Personnage important de la 4ème République. Et Chirac va se présenter dans la circonscription de Queuil, avec la bénédiction de Queuil. Vous voyez, donc tout ça s'entremêle.
Ça rapproche, hein, quoi.
Ça se rapproche. Mais c'est des gens de la France du milieu. C'est ça, Mitterrand, c'est la France du milieu. Ouais. Et c'est un nom de la France du milieu, et Chirac aussi.
Il y a eu aussi un fil corrézien entre François Hollande et Jacques Chirac.
Ah bah oui, mais ça, il y avait une complicité très forte, c'est-à-dire très forte.
Non, mais comme quoi, la Corrèze est un ciment.
Ils s'étaient combattus, mais il y avait beaucoup d'affection, quoi. C'était incroyable. D'ailleurs, on a bien vu l'élection présidentielle de 2012. Je crois que c'est Bernadette Chirac qui a piqué la procuration, mais s'il avait pu voter, on sait
qu'il aurait voté Hollande.
Bah évidemment, Chirac.
Sauf si Juppé y était allé.
Oui, c'est ça, sauf si c'était Juppé, absolument.
François-Olivier Gisbert, je recommande vraiment à nos lecteurs de lire les trois livres de votre trilogie, parce qu'en plus, il y a des souvenirs personnels. Oui. En tout cas, merci d'être venu.
Merci à vous, Fabrice.
Au revoir, à bientôt. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, présidentielle 88, la réélection de François Mitterrand, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Juliette Petit.
Affaires Sensibles est un podcast France Inter.